Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le balado belgico-français, ou belgeo-français, je ne sais pas comment on dit, de la science et de la raison. On va recommencer aujourd'hui une tentative qui a un peu capoté l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté que chaque année, début juillet, une bande de sceptiques renégats tapis dans l'ombre se réunissait en douce pendant un week-end pour organiser et pour réaliser une série de conférences dans ce qu'ils appellent l'université d'été de la zététique. Et donc pendant ce week-end, il y a eu plein de conférences, j'y étais, Jean-Michel Abrassard aussi y était d'ailleurs. Et nous avons écouté toutes ces conférences, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et comme il s'agit d'un club très fermé, avec très peu de monde qui peuvent donc assister à ces passionnantes conférences, eh bien, on s'est dit que ce serait pas mal de pouvoir les mettre à disposition du grand public qui nous écoute pour développer un peu l'esprit critique et le scepticisme. Alors pour ce premier opus, et puis vous allez entendre, j'ai un petit peu, pendant que j'étais là-bas, j'en ai profité pour enregistrer un peu les cigales. Ici vous entendez peut-être derrière moi les cloches de l'église parce qu'on est dimanche. Alors je trouvais que ça faisait bien sur de faire ça pendant la messe, un petit balado sceptique pendant la messe, hein, c'est pas mal, ou juste à la fin de la messe. Mais dans le sud, le son qu'on entend le plus, qui agace beaucoup les gens qui habitent là-bas et qui ravit par contre tous les touristes, c'est le chant des cigales qu'on va écouter. Et juste après quelques secondes de chant des cigales, nous allons écouter la première conférence de cette série. Je pense qu'il y en aura 4 ou 5 probablement. Donc première conférence de cette série des conférences données à l'école d'été de l'Observatoire Zététique, pour tout dire. Cette conférence porte sur la vision par la psychologie sociale des croyances aux théories du complot, et c'était une conférence donnée par Anthony Lantian, qui est doctorant en psychologie sociale. Et il se présente d'ailleurs dans le début, au début de la conférence, donc vous n'aurez pas de mal à rectifier si je me suis trompé. Voilà, on va écouter donc Anthony nous parler des théories du complot d'un point de vue très neutre, hein, il ne s'agit pas de démonter les théories du complot, il dit simplement les éléments mis en évidence par les psychologues sociaux, les éléments qui permettent d'expliquer pourquoi, quels sont les facteurs qui jouent dans la croyance aux théories du complot. Voilà, je vous laisse donc en compagnie de Anthony Lantian. À tout à l'heure.
De recherches en fait sur l'adhésion aux théories du complot, notamment des recherches qui ont été effectuées en psychologie sociale. Donc, bien sûr, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, il faut savoir que c'est un sujet qui me passionne vraiment, au point de faire une thèse dessus. Et donc pour les personnes qui étaient là à la conférence de Fontaine en fait, où il y a eu cette présentation, je vous rassure, il y a des choses en plus, donc vous n'allez pas, ça va pas trop vous ennuyer, j'espère. Donc en fait, au départ, je vais expliquer un peu le positionnement des psychologues sociaux de façon générale sur le sujet. Donc la question que se posent les psychologues, c'est pas de dire est-ce que cet événement, c'est le fruit d'un complot ou non. C'est pas du tout ça l'objectif. Ça, c'est d'autres personnes, c'est les journalistes, les historiens qui peuvent traiter cette question. Donc, tu peux passer... La question vraiment qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va pousser les personnes à expliquer l'origine de certains événements comme étant un complot ou non. Donc qu'est-ce qui va déterminer justement que face à un événement politique ou social, des personnes vont plutôt expliquer cet événement en faisant intervenir un complot. Donc, c'est ça un peu le but. Donc, tu peux passer à la suite. Alors, par contre, bon, ça c'est évident, mais ça n'exclut pas l'existence des complots avérés. Il y en a un sacré paquet. Et ce n'est pas dans le but de nier l'existence des complots. Ça aussi, c'est à chaque fois qu'il y a un article qui sort sur le sujet, c'est précisé dans l'introduction pour pas que les gens s'imaginent des choses totalement fausses. Tu peux passer. Alors, un truc très important, c'est qu'il y a, dans l'ensemble de ces recherches, il n'y a pas du tout l'intention de stigmatiser ou de psychiatriser les personnes qui ont tendance à expliquer les événements avec des scénarios de type complot. Sachant que ça peut être une critique qui peut être faite à la psychologie au départ, mais il y a vraiment, selon moi, il y a toute une tentative, toute une précaution à faire pour pas justement faire dans le facile et surtout dans le psychiatrique, sachant que la plupart des auteurs sont d'accord pour dire qu'en fait l'adhésion aux théories du complot est tellement répandue que évoquer tout ce qui est psychiatrie, ça c'est pas du tout avéré, c'est pas du tout pertinent. Donc, tu peux passer à la diapositive après. Donc concernant le sommaire, ce que je vais faire dans le premier temps, je vais donner différentes définitions qui sont répertoriées. Ça c'est assez important parce que c'est ce qui va déterminer finalement l'objet d'étude. Donc du moment qu'il y a une définition claire et précise de qu'est-ce qu'une théorie du complot, ça permet ensuite d'avoir une base de travail et qui permet de pouvoir comparer les choses. Ensuite, on va parler des types et des structures des croyances, parce que ça, c'est assez intéressant. On va dire, est-ce que finalement, la théorie du complot, c'est une croyance unitaire qui englobe différents complots, ou est-ce qu'il y a plusieurs types de théories du complot? Donc, on va mettre aussi un ensemble d'études qui ont créé qui ont en fait essayé d'étudier les relations qu'il existe entre les traits de personnalité et l'adhésion aux théories du complot. Parce qu'il y a différentes études qui vont dans ce sens-là. Donc, ensuite, on s'intéressera à qu'est-ce qui détermine l'adhésion aux théories du complot. Ensuite, quelles sont les conséquences, donc en amont et en aval. Et ensuite, est-ce que, ça c'est un truc que j'ai rajouté, il y a certains arguments qui vont dire que c'est une croyance difficilement altérable, difficilement modifiable, pour plusieurs raisons, et donc je vais expliquer ces raisons dans cette partie-là. Et ensuite, on fera un bilan provisoire pour terminer. Donc, tu peux passer à des fois d'après. Donc, là, on va commencer par la définition qui, selon moi, est la plus claire concernant les théories du complot. Donc, c'est une tentative d'expliquer la cause ultime d'un événement, un événement habituellement politique ou social, comme une machination secrète organisée par une alliance cachée d'individus ou d'organisations puissantes, plutôt que par une activité non dissimulée ou une apparition naturelle. Donc, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'il y a, donc, premièrement, ça définit quel peut être l'objet une théorie du complot, donc là c'est clairement un événement qui est politique ou social, c'est pas par exemple, je sais pas, un événement personnel qui nous arrive et qui est hors contexte politique ou social. Aussi, ce qui est bien avec cette définition, c'est qu'elle pointe, qu'elle définit finalement qui organise ces complots, qui sont les personnes à l'origine de ce complot, donc ici ça précise que c'est des individus ou organisations puissantes. Ça va être assez important pour la suite, j'y reviendrai, mais c'est vraiment quelque chose à retenir et qu'on ne retrouve pas dans toutes les définitions. Et il y a aussi l'idée de planification et bien sûr d'intention malveillante. Donc on peut passer à la diapo d'après qui est une autre définition que j'ai trouvée. Donc une théorie du complot est une explication d'un événement historique ou d'événements historiques fondée sur le rôle causal d'un petit groupe d'individus agissant en secret. Donc là aussi on retrouve un peu les mêmes éléments que la définition précédente, sauf qu'il y a moins peut-être cette idée de groupe puissant. Donc là, en fait, le groupe ou les personnes à l'origine du complot ne sont pas vraiment définies. On peut passer à la diapo suivante. Alors, une autre définition. Donc, explication naïve, concurrente aux thèses officielles, impliquant souvent l'intervention d'un ou de plusieurs groupes agissant dans l'ombre et apparaissant lors d'événements négatifs ayant une signification sociale. Donc là encore, on retrouve en fait dans ces définitions certains éléments en commun et certains éléments distinctifs, notamment dans la définition du groupe. Et enfin, la dernière définition que j'ai trouvée, elle est un peu plus orientée, parce que c'est clairement en termes de position fausse croyance. Donc les théories de la conspiration sont un ensemble de fausses croyances pour lesquelles la cause ultime d'un événement se réduit à un complot malveillant organisé par de multiples acteurs travaillant de concert, généralement illégalement et en secret. Donc là, par contre, la définition est à mon sens un peu plus orientée, parce que ça se définit clairement en fausse croyance. Alors ça dépend justement des positions des auteurs, mais... Tout ça, c'était pour vous montrer en fait qu'il y avait un ensemble de définitions où il y avait certains points qui étaient assez, il y avait un consensus concernant certains points avec quelques petites distinctions. Mais c'est très important en fait d'avoir ça en tête quand on va présenter la suite des études qu'on va présenter maintenant. Donc on peut passer au point suivant. Donc à la base, en fait, il y avait certains auteurs, de façon purement théorique, qui postulaient l'existence d'une mentalité de conspiration, c'est-à-dire une manière de penser qui avait tendance à voir dans les événements une conspiration. Donc c'était vraiment défini comme un trait de personnalité. Ça, c'était vraiment à la base et ça vient pas... Il y avait des gens avant Moscovici, Serge Moscovici, qui est le fils de Pierre Moscovici. Le père de Pierre Moscovici. À ne pas confondre, bien sûr. Donc, en fait, c'était un peu l'idée de base dans la littérature. On peut passer au point suivant. Alors, en fait, pour tester cette idée, il y a eu plusieurs études, donc notamment une étude qui a été réalisée au New Jersey. En fait, il y avait différentes mesures d'adhésion aux théories du complot, assez variées. Donc là, on était en 94, donc il n'y avait pas encore le 11 septembre, ni la mort de Lady Diana. Mais il y avait par exemple l'assassinat de Kennedy, le complot extraterrestre, il y avait différents complots. Et il se trouve qu'en fait, les auteurs ont réussi à mettre en évidence un lien positif et significatif entre différentes théories du complot assez variées. Donc c'était déjà un premier pas dans cette direction de mentalité de conspiration. Je pense à la diapo d'après. Donc il y a une étude un peu plus récente qui a été menée en Suisse. Donc là, c'est exactement le même constat. Il y avait différentes théories de la conspiration. Là, notamment le 11 septembre, parce que c'était en 2007. Et là encore, en fait, c'est un peu le même constat, donc une relation positive entre différents types de conspirations.
Tu vas nous donner les conspirations en question ou...
Je pourrais le donner tout à l'heure, je ne me souviens pas tout exactement, mais j'ai en tête certains éléments. Donc, en fait, une application, on peut se demander s'il existe une sorte de mentalité de conspiration, alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a deux théories du complot qui sont contradictoires ? Donc on va penser par exemple à la mort de Lady Di en 97, son accident de voiture. Donc il y a eu différentes théories du complot qui ont émergé suite à cet incident. On peut passer à la diapo juste après. Donc sur internet on trouve la théorie de la fausse mort, en fait comme quoi elle aurait simulé sa mort pour disparaître des médias et vivre en tranquillité. Donc c'est une théorie qui était alors plus ou moins répandue, hein, c'est pas forcément la théorie à laquelle le plus de personnes adhéraient. Et donc, on peut passer à la diapo suivante. D'autres théories, font plutôt l'hypothèse de l'assassinat par les services secrets britanniques suite à des histoires de famille. Donc voilà, on trouve typiquement deux types de conspirations à propos de Lady Diana. On peut passer à la diapo d'après.
Je peux poser une.
Oui.
On pose des questions maintenant ou après?
Peut-être plutôt. Enfin, si vraiment c'est un truc urgent, on peut poser maintenant ou sinon.
Parce que, ouais. En quoi le premier truc que tu as dit après, comme quoi elle aurait simulé sa mort, ça serait un complot, ça? Alors, autant je comprends bien, ouais. Le deuxième, petit groupe de gens, ouais. Qui organisent.
Mmh. Le oui, premier... justement. Ça, c'est un peu une des limites. C'est que, suivant la définition qu'on a, ça va pas être exactement un complot, ça va être plutôt une dissimulation de la vérité. Mais il n'y a pas du tout cette idée d'attention malveillante à la base. Donc on en discutera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important.
La famille royale a pu vouloir cacher.
Ouais. Ça, après on peut spéculer, ouais. Mais c'est vrai que si on suit la définition stricte, ça ne peut pas forcément s'appliquer. Donc on peut passer le... Hop. Donc en fait, il y a aussi au niveau de Ben Laden, en fait. Il y a les différentes théories qui ont émergé. Donc comme quoi il était déjà mort avant l'intervention des... service, des forces spéciales, ou alors comme quoi en fait il est toujours vivant, donc il est à la fois mort et vivant, donc c'est selon certaines théories. Et en fait il y a des auteurs qui ont mené une étude dans laquelle ils ont fait des mesures à propos de ces différentes théories qui sont contradictoires entre elles. On peut passer la diapo. Et donc en fait il s'avère que les résultats indiquent que c'est pas un problème, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas de soucis pour adhérer, pour marquer leur accord avec certaines affirmations qui étaient entre elles qui ne pouvaient pas être compatibles. Donc ces résultats-là sont plutôt en faveur de cette idée de système de croyance, de type complot. Alors, et finalement, on peut se dire aussi, est-ce que ça marche aussi avec des théories du complot qui sont inventées de toutes pièces, qui n'ont pas été diffusées par exemple sur Internet? Donc là, les auteurs se sont intéressés. Ils ont dit, tiens, saviez-vous que si vous chauffez une Red Bull à 40 degrés, elle libère des substances toxiques qui peuvent être mortelles. Donc ça, c'était une théorie du complot, là, on pourra en discuter aussi, qui a été inventée par les auteurs et ils ont demandé dans quelle mesure les gens étaient d'accord avec différentes théories. Il y en avait une quinzaine. Et en fait, il se trouve qu'il y avait un lien significatif, un lien positif et significatif entre les théories du complot dites classiques, donc 11 septembre, Lady Diana, l'assassinat de Martin Luther King, etc. Et ces nouvelles théories du complot qui à la base n'existaient pas. Et donc en fait, tout ça pour dire que l'un des résultats les plus marquants, enfin les plus consistants de la littérature pour l'instant, c'est cette idée de système de croyances monologique, c'est-à-dire un ensemble de une dimension théorique, enfin une dimension générale qui prédit dans quelle mesure, face à un événement de type complot, on va avoir tendance plus ou moins à y adhérer. On peut passer à la suite. Par contre, on retrouve aussi des arguments qui nous font penser qu'il y a différentes catégories de théories du complot. Alors par exemple, vous passez à la diapositive. Il y aurait les théories de complot du type système. Bon, là, on peut penser à théories du complot du type gouvernement, Big Pharma, donc les grandes structures en fait qui sont le système de façon générale. Et il y a d'autres types de complots qui sont minorités, par exemple le complot Al-Qaïda, le complot juif mondial. Et en fait, c'est différentes catégories de complots. Alors certains auteurs font une classification en termes d'orientation politique, donc théorie du complot de type système sont plus orientée extrême gauche, tandis que théorie du complot de type minorité plus extrême droite. Donc c'est une façon de caricaturer un peu, mais c'est pour aider à faciliter à la compréhension. Donc là, ces auteurs ont montré qu'il y avait justement deux types de complots. En fait, ces deux types de complots sont très reliés, mais on arrive quand même à trouver statistiquement, en fait, ça nous indique que c'est considéré comme deux dimensions différentes. Alors là, très récemment, donc une étude qui est sortie en 2013, qui a encore plus précisé les différentes catégories de complots. Donc on peut passer à la diapo d'après. Alors, il y a la théorie du complot malveillance gouvernementale, donc ça c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. Il y a théorie du complot couverture extraterrestre, donc en fait que les autorités cachent le fait qu'il y ait eu des contacts avec des extraterrestres. Conspiration globale malveillante, donc là rien de spécifique à dire. Alors, complot visant le bien-être, alors là c'est toutes les nouvelles théories du complot, notamment tout ce qui est les ondes, le contrôle de la pensée, tout ce qui est lecture de... enfin. Vous voyez à peu près ce type de complot en fait, qui postule l'existence de différentes technologies visant à réduire le bien-être des personnes. Et enfin, le dernier type de complot, c'est contrôle de l'information. Là encore, c'est un ensemble de théories du complot qu'on voit assez souvent sur Internet. Donc voilà, cet auteur, en fait, ces auteurs ont distingué différents types de complots. Je trouve que ça va un peu plus loin que la simple catégorie classique. Donc on peut passer à la suite. Alors, très récemment, donc ça c'est sous presse, il y a certains auteurs qui postulent que l'adhésion aux théories du complot, donc la mentalité de conspiration, ce serait une attitude politique généralisée, c'est-à-dire une manière de raisonner politique. Donc on va voir des exemples pour que ce soit plus clair pour vous. Donc en fait, la mentalité de conspiration se manifesterait par un haut niveau de préjugés envers les groupes de haut statut. Exemple, politiciens, grandes entreprises, managers, et même chercheurs en sciences physiques dans les différents groupes. Et donc en fait, ces différents groupes seraient perçus comme moins appréciables et plus menaçants. Et cette mentalité de conspiration serait reliée à un plus haut niveau d'anti-américanisme, anti-capitalisme et antisémitisme. Donc là, c'est juste des liens, hein. Ça ne veut pas dire que l'un cause l'autre, mais ça nous aide à mieux comprendre en fait avec quoi est reliée l'adhésion aux théories du complot. On pourra en reparler tout à l'heure. Donc là, j'ai un petit point méthodologique sur les études corrélationnelles. Ça, c'est ce que j'avais présenté à la mairie de Fontaine, en fait. Je pense que vous devez déjà le savoir, mais c'est bien de refaire un point dessus. Donc par exemple, on décide de réaliser différentes mesures sur différentes personnes. Par exemple, mesures de A et de B. Un exemple, tu aimes bien le prendre, c'est l'exemple, le lien entre la taille des pieds et l'intelligence. Par exemple, on veut dire, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux. Donc... ça nous permet juste de décrire la relation qui existe entre deux variables, donc entre par exemple la taille des pieds et l'intelligence. Alors, ça ne permet pas de s'assurer que A cause B, donc par exemple on ne peut pas dire, en fait c'est le fait d'avoir des grands pieds qui fait qu'on est plus intelligent ou inversement. Ça permet juste de décrire qu'il existe une relation effectivement entre ces deux variables. Et parfois c'est une autre variable, C, qui explique la relation entre A et B. C'est ce qu'on appelle en zététique l'effet grand pied. Après, ça peut être les variables cachées ou variables...
Cigogne.
Ouais. L'effet cigogne, voilà. Il y a différentes terminologies. Là, typiquement, ici, ça serait plutôt l'âge qui expliquerait le lien entre taille des pieds et intelligence. Donc, on peut passer à la suite. Alors donc en fait il y a eu un certain nombre de recherches très récentes qui ont essayé de montrer les relations qu'il existait entre adhésion aux théories du complot et différentes caractéristiques, différents traits de personnalité. Donc entre autres le manque de confiance en autrui, donc ça c'est assez, on veut dire c'est assez logique. Plus on a tendance à être méfiant vers le, plus on a tendance à être méfiant vers les autres, plus on a tendance à adhérer à cible théorie. Donc il y a aussi le machiavélisme et le cynisme politique. On peut passer à la suite. Alors la faible agréabilité, donc agréabilité en fait c'est une dimension de personnalité qui définit le fait d'être compatissant et agréable avec les autres. Donc en fait plus on, moins on est moins on se considère comme haut sur cette dimension là, plus on a tendance à adhérer aux théories du complot. Faible estime de soi, alors là j'aimerais juste rentrer plus en détail parce qu'il y a pas mal de recherches qui ont montré un lien entre faible estime de soi, donc l'estime de soi c'est la valeur que l'on s'accorde, et le fait d'adhérer aux théories du complot. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ces, ces liens-là. Notamment, en fait, il s'avère que dans la théorie, déjà dans les années 60, il y avait des auteurs, qui, des historiens qui disaient qu'en fait, les théories du complot avaient plus tendance à être adoptées par des populations qui sont marginalisées et mises de côté. Et donc ça pouvait expliquer pourquoi il existerait un lien entre la valeur que l'on s'accorde et le fait d'adhérer ou non à ces théories du complot. Il faut savoir que nous, on a essayé de répliquer ces effets de ce lien entre faible estime de soi et adhésion aux théories du complot, et on n'a pas réussi à les répliquer. L'une des explications, c'est que ces effets sont très faibles. Il y a le lien peut-être existe dans la réalité, mais il est extrêmement faible. Donc c'est pour ça que, pour ce point-là, voilà, je mets un peu un bémol, parce que c'est vraiment des trucs très très minimes. Ils ont des échantillons de 500 personnes, par exemple, ou des fois 1000 personnes. Donc c'est des relations qui existent, mais qui sont très marginales. On va passer à la suite. Alors, par contre, une relation extrêmement forte, c'est croyance au paranormal et théorie du complot. Peut-être tu pourras nous en parler tout à l'heure sur les croyances au paranormal, mais généralement, plus les gens sont... comment dire ? Plus les gens ont tendance à penser que, par exemple, il existe des phénomènes psy, que la télépathie existe, que la télékinésie, etc., que les extraterrestres existent, et plus ils ont tendance à adhérer à ces théories du complot. Donc je vous expliquerai pourquoi il y a, ça peut être lié, croyance au paranormal et théorie du complot. Et donc on peut passer à la diapo d'après. Alors, un truc intéressant, c'est le support au principe démocratique. Donc les personnes qui ont tendance à accorder une grande valeur au principe démocratique ont plus tendance à adhérer aux théories du complot, notamment aux théories du complot sur le 11 septembre. C'est pour ça qu'en fait sur Internet, on retrouve beaucoup... c'est assez, assez militant, mais c'est en fait l'idée de... d'avoir une démocratie ouverte, et c'est pour ça qu'en fait généralement c'est assez relié. Mais après, est-ce que ça va au-delà du 11 septembre? Ça, c'est une autre question. On peut passer.
Ça m'a l'air un peu contradictoire avec la deuxième.
Cynisme politique.
Machiavélisme et
cynisme. Alors, c'est ça qui est un peu contradictoire en fait. Moi, là pour l'instant, j'ai pas encore d'explication. Si vous en avez, c'est bien, mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire. Mais. En fait, cynisme politique, c'est une vision de la politique. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas que les gens aient des idéaux démocratiques très élevés. C'est pas forcément... Peut-être, cynisme politique, c'est comment on voit à un instant T comment fonctionne le système politique. Par contre, ça n'empêche pas peut-être d'avoir des idéaux qui sont en termes de principes démocratiques. Mais ça, c'est une discussion, on pourra en parler tout à l'heure. Enfin, l'ouverture à l'expérience. Ça, c'est l'idée d'être curieux, d'être imaginatif. Et c'est ce qui pourrait expliquer en fait finalement le lien entre croyance au paranormal et théorie du complot, parce que finalement l'ensemble de ces théories, ça insiste sur l'aspect nouveau, sur l'aspect original des explications. Donc c'est ce qui pourrait expliquer le lien entre ces deux. En fait. On peut passer à la suite. Donc les limites, il y a différentes limites à toutes ces études que j'ai présentées sur les liens de corrélation. Donc l'effet Grandpierre, on en a discuté tout à l'heure, on reviendra pas dessus. Alors la limite concernant l'instrument de mesure, donc en fait il faut savoir que chaque fois qu'il y a des mesures de personnalité avec des échelles, il y a de l'erreur de mesure ainsi que de l'incertitude sur la dimension mesurée. Par exemple, est-ce que si on mesure l'estime de soi, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est l'estime de soi qu'on mesure? Ça c'est des questions théoriques. Et dans quelle mesure c'est généralisable, même si on doit préciser que toutes ces études ont été réalisées pas seulement sur les étudiants mais sur des populations plutôt larges, donc il y a quand même... c'est pas forcément négatif. Donc, maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui détermine l'adhésion aux théories du complot. Donc, avant ça, un petit point méthodologique sur les études expérimentales. Un exemple, c'est imaginons qu'on veuille étudier l'effet du manque de contrôle sur l'adhésion aux théories du complot. Donc il y a pour ça, donc on va prendre deux groupes de personnes. Donc il y aura un groupe expérimental et un groupe contrôle. Le groupe expérimental, c'est le groupe sur lequel il va y avoir justement cette... on va les mettre dans une situation où ils seront dans, un état d'esprit de manque de contrôle. J'y reviens tout à l'heure. Donc, très important, depuis le début, à l'OZ, on assiste dessus, c'est la répartition aléatoire dans les groupes. Donc, il va y avoir, par exemple, un groupe expérimental et un groupe contrôle à partir d'un échantillon principal. Et bien sûr, ils vont être répartis aléatoirement dans ces deux groupes. Et donc, si on observe une différence suffisamment importante et significative entre ces deux groupes, il y a de fortes raisons de penser qu'en fait, finalement, ce qui les différencie, c'est le paramètre que l'on a fait varier entre ces deux groupes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue le groupe expérimental et le groupe contrôle ? C'est ce qui, justement, c'est ce qui, à la base, les différencie, les distingue. Je ne sais pas si je suis très clair, mais tout à l'heure, il y aura des exemples, donc c'est un peu plus simple, peut-être. On va passer à la suite. Donc, il y a une étude qui a fait pas mal de bruit, qui est paru dans Science, de Whitson et Galinsky. L'idée générale en fait, qu'ils ont testée, c'est est-ce que finalement, face à une situation dans laquelle on manque de contrôle, on a tendance à trouver des liens, trouver de l'ordre là où il n'y en a pas a priori. Par exemple, une étude qu'ils ont faite, c'est ils ont mis des personnes dans une situation de manque de contrôle et ils ont mis des points aléatoires, totalement aléatoires. Et en fait, les personnes avaient plus tendance à trouver des images, à trouver un sens à ces différents points qui sont distribués aléatoirement, quand ils étaient en situation de manque de contrôle. Donc l'idée, c'est une sorte de contrôle compensatoire. Donc face à une situation dans laquelle on n'a pas vraiment de contrôle, on a tendance à, dans notre perception, créer des liens et des structures. C'est un peu l'idée qui a été testée. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré que les personnes qui ont été mises dans une situation de manque de contrôle ont tendance à faire appel à une explication de type complot pour expliquer un scénario imaginaire. Donc, on leur demandait de se projeter dans un scénario dans lequel, par exemple, ils étaient dans une situation de travail et ils allaient avoir une augmentation. Et en fait, il se trouve qu'ils étaient dans une situation, dans un contexte dans lequel ils pouvaient voir le nombre de mails qui étaient échangés entre différentes personnes de l'entreprise. Et en fait, le jour précédent dans lequel la personne a appris qu'elle allait avoir une augmentation, il y a eu une augmentation massive d'échanges de mails entre un collègue et la personne qui devait donner l'augmentation. Et en fait, les personnes devaient dire dans quelle mesure cet échange de mails est lié au fait que la personne n'ait pas obtenu, au final, l'augmentation. Donc, on peut discuter parce que là, c'est plus une conspiration de type personnel. C'est pas une conspiration d'un événement social ou politique. Donc, ce serait ma critique pour cette étude, même si c'est très intéressant l'idée du lien entre ces deux choses. Donc, maintenant, concernant les conséquences, on peut se demander comment on peut mesurer finalement l'influence réelle d'une exposition à une théorie du complot. Donc, pour ça, il y aura un groupe de personnes dans laquelle on va leur demander de prendre connaissance des informations diffusant une théorie du complot, par exemple sur la mort de Lady Diana. Donc ce sera le groupe expérimental. Alors ce groupe de personnes a été sélectionné aléatoirement. Il y aura une autre moitié de personnes dans lesquelles ils n'auront pas connaissance, ces personnes, de ces différentes informations concernant la théorie du complot. Ça, c'est le groupe contrôle. Ensuite, il va y avoir une mesure du degré d'adhésion à différentes théories du complot concernant cet événement. Et l'idée, c'est que s'il existe une différence entre ces deux groupes, on peut présumer d'un effet de l'exposition à ces théories sur l'adhésion aux théories du complot. Donc ces études ont été réalisées, je vais vous donner les résultats juste après. On peut se demander aussi comment mesurer l'influence prédite de l'exposition à une théorie du complot sur soi-même. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc en fait, dans quelle mesure on est capable de prédire si le fait de lire des informations sur les complots peut nous influencer. Donc pour ça, on va demander aux personnes du groupe qui a lu les informations diffusant la théorie du complot dans quelle mesure ils adhèrent à cette théorie du complot actuellement, donc le T2, et dans quelle mesure ils adhéraient à cette théorie du complot avant d'avoir lu ces informations, T1. Donc en fait, dans quelle mesure ils adhèrent maintenant et dans quelle mesure ils pensent qu'ils adhéraient avant d'avoir lu.
Est-ce qu'on a fait le tri entre ceux qui connaissaient cette théorie du complot ceux qui ne la connaissaient pas avant l'expérience? Ouais.
Dans cet article, il me semble pas, mais c'est vrai que c'est un contrôle. Mais après, même s'il existe des différences à la base entre ces deux groupes, il y a peu de chances que tout le monde soit dans le groupe en fait. Mais ça permet d'avoir peut-être plus de précision. Et donc, on peut passer à la diapo d'après. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en soustrayant ces deux mesures, donc T2 moins T1, si le score est égal à 0, on prédit une absence d'influence pour soi-même. C'est-à-dire qu'on pense que le fait d'avoir lu ces informations ne va pas nous influencer. Si le score est supérieur à 0, on prédit qu'il y a une influence positive. Et inversement, si le score est inférieur à 0, on prédit une influence négative. C'est-à-dire qu'en fait, on prédit qu'on est encore moins, on a moins tendance à adhérer aux théories du complot après avoir lu ces informations. Ça, c'est la suite. Alors, ce qui est intéressant à cette étude, c'est qu'on a aussi, enfin, les auteurs ont aussi étudié l'influence prédite sur autrui. Dans quelle mesure on pense que autrui est influençable. Et ça, c'est assez intéressant. Donc là, c'est un peu le même principe. On peut passer à la diapo d'après. Donc, on va demander à des personnes du groupe qui ont lu les informations diffusant les théories du complot, dans quelle mesure leurs camarades, parce que c'est sur les étudiants, adhèrent à cette théorie du complot à un instant T, donc T2, et dans quelle mesure ils y adhéraient avant d'avoir lu ces informations. Donc là, c'est exactement la même chose, on peut passer à la diapo d'après. Donc, il y a 96 étudiants qui ont participé à cette étude. Je vais vous montrer donc les résultats de cette étude. Ce qu'on voit, c'est que, en fait, l'influence prédite sur soi-même, donc on voit le petit truc, la petite barre qui est vert foncé. Généralement, on a tendance à sous-estimer l'influence que vont avoir ces informations sur notre propre croyance, parce que l'influence réelle, c'est ça qu'il faut regarder. La barre jaune plutôt claire, ça c'est l'influence réelle. Et l'influence réelle, pour la mesurer, on a simplement les auteurs ont simplement comparé le groupe contrôle du groupe expérimental qui n'ont pas lu le groupe contrôle qui n'ont pas lu ces informations. Du groupe expérimental qui ont lu ces informations. Mais l'autre information très, très intéressante, c'est qu'au final, on est plus proche de la réalité quand on prédit l'influence que ça va avoir sur des autres. Donc ça, c'est un effet classique en psychologie, third party effect, ou l'effet de troisième partie. Donc en fait, on est plus fort pour prédire l'influence que va avoir une chose sur une autre personne que pour le prédire sur soi-même. Je sais pas si...
En clair, on se croit ouais. Moins naïf que
voilà.
Les autres. Quoi.
On a tendance à... Il y a cette tendance à être... être persuadé d'être moins naïf que les autres. On va passer à la suite.
Pardon, ouais. Sur l'influence réelle,
ouais.
Ça, on peut déduire quoi du fait que l'influence réelle est la même
Non, là en fait, c'est exactement la même parce que c'est le même. Comment dire
La différence entre les deux groupes.
En fait, non. L'influence réelle entre les deux, c'est le même résultat. C'est juste pour pouvoir comparer, mais c'est les mêmes données en fait. C'est pour ça que c'est la même chose. Parce que sur autrui et sur soi-même, si on moyenne, c'est les mêmes en fait.
D'accord. On est autant influençable que les autres en fait.
Oui, parce que finalement, cette moyenne, c'est pris sur nous et sur les autres. Donc, c'est pour ça que c'est la même moyenne. Une autre étude, ça c'est assez récente, donc sur les conséquences encore de l'adhésion aux théories du complot, qui a été menée en ligne en Angleterre. Donc, pour précision, Jollet, c'est un doctorant en Angleterre qui travaille sur les théories du complot et qui a fait pas mal de trucs dessus. Donc, il y a une partie des personnes qui ont été sélectionnées aléatoirement à partir d'un échantillon, et qui devait lire un article pro-conspiration, donc ici impliquant le gouvernement. Tandis qu'il y a une autre partie des personnes qui lisent un article anti-conspiration, donc en gros un article qui est sceptique vis-à-vis des conspirations gouvernementales. Donc, juste après ces différentes lectures, il y a eu différentes mesures qui ont été réalisées, notamment l'intention comportementale en politique dans l'année qui suit. Alors l'intention comportementale, c'est l'engagement politique, par exemple aller voter... aller faire partie d'un, comment dire, être sympathisant d'un parti politique, s'intéresser à la politique. Donc c'était ces différentes mesures qui ont été réalisées. Et en fait, les résultats indiquent... Oula, il y a un problème sur le graphique. Donc est-ce que si on passe en la diapo d'après, on voit plus? Non. Donc bon, il y a un problème sur le graphique, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont lu des articles qui traitaient des conspirations pro-gouvernementales, des conspirations gouvernementales avaient moins tendance à rapporter un engagement politique comparativement à l'autre groupe. Alors, d'un côté, c'est logique, parce que finalement, si on donne l'impression aux gens que tout est joué d'avance, il n'y a aucun intérêt à s'engager. Ça, c'est une conséquence qui peut être assez intéressante, je trouve assez intéressante. Juste pour préciser, par contre, cet effet est très faible en termes de taille d'effet, c'est-à-dire que ça explique vraiment une toute petite partie, je crois que c'est 5% du score. Donc au final, c'est pas non plus un truc massif. C'est pas une influence massive, mais c'est une influence quand même qui est significative. Là aussi, ce qui explique cet effet, c'est aussi l'impression de manque de pouvoir politique. Donc c'est finalement, si on a l'impression de ne pas avoir pouvoir politique, quel est l'intérêt de s'engager politiquement? C'est un peu ça l'idée. Ils ont fait la même étude, mais avec par contre cette fois-ci les comportements écologiques, la réduction de l'empreinte carbone par exemple, et si, les personnes qui avaient lu justement des théories sur... le scepticisme envers le changement climatique avait moins aussi tendance à rapporter en fait vouloir réduire leur empreinte carbone comparativement à l'autre groupe. On passe à la suite. Alors je dis que c'est une croyance qui est très difficilement altérable parce que finalement la théorie du complot en elle-même c'est généralement infalsifiable parce que s'il y a une communication à propos d'un événement pour dire que c'était pas un complot, la personne interpréteront que c'est justement ça fait partie du complot et que c'est un complot. S'il y a aucune information, les personnes diront c'est la preuve que c'est un complot parce qu'ils n'en parlent pas. Donc en soi c'est un peu compliqué la théorie du complot à falsifier. Alors il y a une étude assez intéressante, je ne rentrerai pas dans le détail ici parce que ça peut être un peu long, mais en fait il se trouve que si on présente à des personnes des arguments pro et anti-conspiration, suivant le fait que les personnes soient pro ou anti-conspiration à la base, elles vont avoir tendance à prendre dans ces informations seulement ce qui les intéresse. C'est ça ce qu'on appelle l'assimilation biaisée. Peut-être Virginie pourra, si elle a des exemples plus parlants. Mais en fait, ici, c'est que finalement, les gens qui étaient anti-conspiration, enfin qui étaient pro-conspiration, si on leur montre des arguments pro et anti, ils vont avoir tendance à retenir que les arguments qui sont pro-conspiration. Et ça va même polariser leur attitude, c'est-à-dire qu'ils vont être encore plus pro-conspiration après avoir vu ces arguments, même s'il y avait dans cette même liste d'arguments des arguments anti-conspiration. Donc c'est ça qui est intéressant. Et inversement, pour les gens qui sont anti-conspiration, enfin, anti-conspiration, c'est un terme impropre, mais qui sont plutôt sceptiques vis-à-vis des théories de la conspiration, eux aussi vont avoir tendance à prendre seulement les informations qui les arrangent et être encore plus extrêmes. Donc ça, c'est un phénomène général en psychologie sur la polarisation des attitudes. Et ça peut être l'objet d'une présentation ultérieure, un jour, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire dessus.
Ce qu'on appelle le biais de confirmation.
Alors, c'est l'assimilation biaisée, c'est une catégorie de biais de confirmation. Après, je ne sais pas vraiment la différence exacte entre les deux, mais c'est très relié. C'est très relié. On va passer à la suite. Alors il y a aussi tout ce qui est persistance des croyances. Alors il y a eu différentes études qui ont montré qu'en fait, là c'est pas relié aux théories du complot, hein, mais si on amène les personnes à penser à une théorie, donc à leur demander dans quelle mesure cette théorie peut paraître vraisemblable, donc on va les faire réfléchir par rapport à ça, et qu'ensuite on leur dit en fait c'était du bidon, les personnes vont quand même avoir tendance à garder cette théorie en tête. Et à être, même si on leur dit que c'est absolument faux, il y aura quand même un reste de cette théorie. Aussi pareil, Virginie, si tu as des exemples en tête. En tout cas, voilà, il y a pas mal de littérature sur ce sujet, donc la persistance des croyances. C'est pour ça que finalement, lire des informations pro-conspiration, ça peut être compliqué à démystifier juste après. L'effet de retour de flamme, peut-être à l'OZ, vous en avez déjà parlé. Donc il y a plusieurs effets qui peuvent contrecarrer en fait finalement les tentatives de débunkage, de démystification de différentes théories. Là, il y a un article très très intéressant de Lewandowski qui a fait une sorte de revue de littérature sur tous ces effets-là. Donc juste après, dans la diapo d'après, j'ai récupéré un exemple en fait de son article et je trouve que c'est super bien bien clair. Par exemple, le familiarity backfire effect. Donc en fait, le fait de répéter un mythe, ça a tendance à augmenter sa familiarité et donc de le renforcer. Au final, plus un mythe est propagé, et plus il a tendance à se renforcer. Et ce qui fait que là, c'est la solution. Donc en fait, là, c'est justement ce qu'il faut éviter. Il faut éviter la répétition du mythe de façon à éviter de renforcer ce mythe-là, justement. Donc ensuite, il y a Overkill Backfire Effect. Donc il faut savoir que les mythes qui ont des explications très simples ont tendance à être plus attractifs de point de vue cognitif. Et donc en fait, ça complique les réfutations. Parce que les faits, généralement, sont plutôt un peu plus compliqués parce qu'il y a différents faits qui font appel à de la technique, en fait, derrière. C'est pour ça que les mythes sont plus attirants cognitivement. Donc c'est pour ça que ce qui est conseillé, en fait, d'après les études, c'est plutôt de se baser sur moins d'arguments plutôt qu'une pluie d'arguments par rapport à ça, parce que finalement ça complexifie la donne, le fait de donner plein d'arguments. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Là, il conseille le scepticisme à propos de la source de l'information sur lequel il faut insister. Alors, le dernier, c'est Worldview Backfire Effect. Donc en fait, les arguments qui compromettent, en fait, qui sont menaçantes par rapport à la vision du monde des personnes, peuvent renforcer la croyance initiale. Par exemple, je sais pas, une personne qui a j'ai pas d'exemple en tête, mais il faut savoir qu'en fait ça c'est, il faut, c'est pour ça que je pense que l'un des principes de l'OZ c'est toujours respecter les croyances des personnes. Donc là ce qui est confirmé c'est de framer, c'est-à-dire de cadrer en fait l'argument dans, en essayant d'adopter le point de vue du concernant le monde des personnes en fait, pour éviter justement de rentrer en directement en confrontation avec ça. Donc en gros, l'auto-affirmation concernant les valeurs personnelles renforce sa réceptivité aux arguments en fait. Donc c'est en gros le fait de amener les personnes à réaffirmer les valeurs qui sont importantes pour elles. Donc là c'était juste une petite parenthèse, on va terminer. Donc là, un bilan provisoire, et ça je pense que c'est très très important, la nécessité de prendre en compte le contexte. Est-ce que ça vous parle, l'étude de Tuskegee qui a été menée aux États-Unis? Donc en fait c'est une étude dans laquelle il y a une population noire américaine qui ont été étudiées, et en fait cette population, ils étudiaient l'évolution naturelle de la syphilis, alors qu'à un moment donné de l'étude, il y a un traitement qui existait. Donc typiquement, c'est historiquement pour les noirs américains aux États-Unis, c'est une étude en fait qui est extrêmement qui a marqué. Et c'est ce qui peut expliquer en partie pourquoi finalement certaines théories du complot visant les Nord-Américains sont très répandues aux États-Unis. Justement, on va présenter la diapo d'après. Donc par exemple, il y a une croyance assez répandue selon laquelle le sida aurait été développé en vue d'éliminer les Noirs-Américains. Donc il y avait, par exemple, dans cette étude-là, il y a à peu près 25% des gens qui étaient plutôt d'accord avec cette affirmation. Et donc c'est pour ça que c'est toujours important de prendre en compte le contexte historique quand on étudie les théories du complot, parce qu'il y a des fois, c'est ça en grande partie qui explique pourquoi les gens vont avoir tendance à être méfiants.
Excuse-moi, 25% des Noirs américains
ou... Alors, dans cette étude, oui, 25% des Noirs américains, c'est seulement les Noirs américains, parce que parmi les Blancs, elle n'est pas très très peu répandue. Quoi. Ensuite, c'est la diapo d'après. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que les croyances de théories du complot sont quand même intégrées dans un système de croyances de plus haut niveau. S'il peut expliquer pourquoi, en fait, face à un nouvel événement, par exemple, attentat de Boston, les gens qui ont à la base une forte tendance à adhérer aux théories du complot vont récupérer cet événement et l'assimiler aux grandes théories du complot. Ensuite, on a vu qu'on avait tendance à sous-estimer l'influence que les théories peuvent exercer sur nous-mêmes. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Les théories du complot peuvent aussi avoir, certaines théories du complot peuvent avoir une influence négative sur l'intention de participation à la vie politique, comme on l'a vu tout à l'heure, de même que l'intention de réduire son empreinte carbone. Alors il y a plein d'autres explications du pourquoi les théories du complot, par exemple désignation d'un coupable, blâme du système de façon générale, besoin de sens, réduction de la complexité du monde. Alors très récemment il y a aussi l'hypothèse comme quoi les théories du complot permettent de générer un changement social. Par exemple, on peut penser aux États-Unis, comment ça s'appelait le mouvement là, des 1%, des 99% contre les 1%. Je ne sais plus le nom.
Occupy West.
Oui, voilà. Donc ça, c'est typiquement un exemple en fait de théorie, à la base peut-être une théorie du complot qui peut générer un changement social en rassemblant des personnes. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. On peut passer à la diapo finale. Donc actuellement, en fait, il y a certains chercheurs qui sont en train justement de tester les effets positifs. Parce qu'il n'y a pas que des effets négatifs que peuvent avoir l'exposition à ces théories du complot. Notamment Jollet qui... Enfin, jusqu'à présent, il n'a pas encore réussi à démontrer ça, mais c'est un peu la nouvelle tendance, même si, de façon générale, c'est quand même montrer les effets négatifs, là, 99% du temps. Donc voilà, est-ce qu'on a encore d'autres choses? On peut passer à la diapo d'après. Donc voilà, merci de votre écoute.
Et voilà, c'était donc la conférence de Anthony Lantian à l'école d'été de l'Observatoire Zététique. Vous avez peut-être remarqué qu'à plusieurs moments, on parle de Nestor. Alors c'est le surnom qui a été donné à la personne chargée de faire avancer les diapositives en appuyant sur la touche flèche avant pour le diaporama. Et voilà, c'est pas toujours la même personne, c'est un nom de personnage, Nestor. Vous voyez qu'on s'amuse bien à l'école d'été de Zététique dans le sud de la France. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse jusqu'à la prochaine fois. À bientôt, zététiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.